Eh bien, bonsoir tout le monde, merci d'être là. C'est cette semaine, il y a trois soirées de fin de résidence de Gossy qui va nous quitter, ça va être horrible. Mais c'est pas tout à fait horrible, puisque là, on a le grand bonheur de ces trois soirées. Donc, Gossy présentera la soirée de ce soir. Je vous rappelle juste que demain soir, nous avons une autre soirée où là, c'est Gossy qui nous lira une partie du texte écrit pendant la résidence. Voilà. À toi, Lana.
Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être venus à cette lecture. Alors, très rapidement, on a travaillé, on a décidé de travailler le récit. Donc, le court récit. Et donc de travailler la continuité. Mais ce que vous allez entendre ce soir, ce n'est pas tout le texte, c'est pas la totalité du texte de chacun, mais des extraits qui font unité, parce qu'on a travaillé la continuité, donc une unité longue. Et donc on a pris des fragments à l'intérieur de cette unité que chacun a proposé, mais donc des fragments qui font unité, des micro-unités extraits de cette de l'unité totale, si j'ose dire. Donc voilà, vous allez traverser différents univers, différents théâtres, entrées, sorties, et voilà, je vous souhaite une bonne audition. Alors, prologue.
C'est l'hiver. C'est un matin trop tôt pour mettre le nez dehors. Une silhouette sort d'une de ces maisons de ville à deux étages qui borde la rue jusqu'au fleuve. Eric l'aperçoit. Planqué dans sa voiture, il est censé surveiller les allées et venues d'un dénommé Silsi, qui deal de la coke dans le quartier. Comme son père, Eric est policier, à la BAC, autrement dit dans une brigade anticriminalité. Depuis qu'il le traque, l'homme est devenu invisible. Quand la silhouette le dépasse, il sort de sa voiture, sans autre motivation que de mettre le nez dehors. Il la suit. Elle porte une capuche, une doudoune et un jogging. Quelques minutes plus tard, il est déjà entré dans la cadence de cette silhouette qui poursuit sa marche dans l'alignement lumineux que forment les halos des réverbères. À cette heure du jour où la nuit résiste, hormis les jambes de quelques clochards endormis, tous deux ne rencontrent personne jusqu'au fleuve. Quand elle s'approche de la rambarde du pont, un frisson le traverse. Mais elle ne fait que s'y accouder, et la tête dans les mains, elle contemple la masse liquide qui s'agite au-dessous. 20 mètres les séparent. Ils sont à peine heurtés par la faible lumière de l'éclairage public. Eric s'approche, comme on le ferait au comptoir d'un bar, pour entamer une conversation avec un voisin, parce que boire seul ce jour-là vous paraît insupportable. Eric ne boit pas, comme on pourrait dire de celui-là, il boit, mais il boit quand même ses 2 verres chaque soir au comptoir du Saint-Jal, avant de rentrer chez lui, où il dîne seul devant la télé, quand il n'en est pas réduit à manger un sandwich dans sa voiture, comme ce soir. Lui a-t-il fait peur? La silhouette a quitté le pont. Pourquoi continue-t-il de marcher dans sa direction? Elle se met à courir. Sa capuche retombe sur ses épaules et découvre des cheveux coupés au bol d'un rouge sang. Arrivé à sa hauteur, il sort machinalement sa carte de policier. Ses jambes se dérobent sous elle. Il tente de la retenir, mais elle s'affaisse mollement sur le trottoir. Quand il l'aide à se relever, elle le repousse avec ses bras et vient prendre appui sur la rambarde du pont. Comme il ne trouve rien à lui dire, il remet sa cape dans sa poche et s'en va. C'est là qu'elle l'interpelle. Alors comme ça, t'es flic. D'habitude, je les sens à des kilomètres. Mais là, j'ai bien cru que t'étais un de ces cinglés. Il revient sur ses pas. Posté comme elle est, en dessous du réverbère, il voit son visage. Elle a des yeux bruns, un nez fin et long, un front haut, des lèvres sans épaisseur, une peau d'albâtre. Plutôt jeune, une trentaine, plutôt jolie, et des airs de garçon manqué. Il se demande, ça fait combien de temps qu'une femme ne lui a pas parlé ? Depuis son divorce, il a l'impression d'errer. Dans son travail de flic, les interrogatoires, les filatures, les planques, il n'y est plus. Chez lui, non plus. Dès qu'il a un moment, il s'engouffre au Saint-Jal. Il y boit, il y mange. Quand il a fini, il rentre. Parfois, il lui arrive de se faire un ciné. Ce soir, rentrer chez lui est au-dessus de ses forces. Ce soir, c'est comme si la vie, à force de lui faire signe, le départ de sa femme, l'alcoolisme et la maladie psychique enfin dévoilée de sa mère, il comprenait enfin qu'il était devenu un autre et que cette vie n'était donc plus la sienne, qu'il n'avait donc plus rien à faire, ni chez lui, ni dans le travail, ni même au Saint-Jean. D'ordinaire, il était peu bavard. D'abord, il s'était risqué. « Vous fumez ?»« Si vous voulez », elle lui avait répondu. Étrange comme réponse, non ? Il y avait un parfum d'incohérence ce soir-là, presque de poésie. Quand les choses et les êtres s'atteignent, parfois, il y a ce genre de résonance. À cet instant, elle pense à autre chose, à lui peut-être, déjà sans le savoir. Quand quelque chose vous arrive, ça a toujours un cran d'avance sur vous. Elle l'a écouté comme on lirait un livre, en s'imaginant chaque scène, chaque visage. Longtemps, Elsa est venue ici sans rencontrer personne. Depuis un mois, elle avait presque arrêté, puis voilà que cette nuit, ça l'avait repris. Toujours le même rêve. Un homme s'approche d'elle dans la nuit, elle ne voit pas son visage. Il lui donne une boîte métallique. Dessus, c'est écrit « Ne l'ouvre jamais ». Quand elle se retourne, il a disparu. L'intensité du choc la sort de son rêve. Quand elle ouvre les yeux, il est 4 heures du matin. Après, un désir la pousse dehors vers cette eau noire qui lui a volé son mari l'année dernière, jour pour jour. Dans un quart d'heure, il sera 5 heures du matin. Ils se sont décidés à rentrer. Avant d'atteindre l'autre rive, elle pose à nouveau son regard sur les eaux du fleuve. Elle y voit la boîte métallique de son rêve, au milieu d'un tourbillon qui ne peut l'engloutir. Quand elle a peur, elle rit. Alors elle rit en lui demandant « Vous n'auriez pas sur vous une boîte métallique ?» D'un geste mécanique, il lui sort de la poche intérieure de son blouson le carnet dont il vient de lui raconter l'histoire. Il a une couverture en fer. Il pourrait passer pour une boîte en métal. Il lui a sauvé la vie. Une balle de 5 mm l'a traversée avant de lui égratigner une côte. Depuis, il ne s'en est jamais séparé. Jamais. Avant de lui donner, il avertit. Si vous me promettez de revenir demain, je vous le prête, mais surtout n'essayez pas de l'ouvrir. Elle s'en saisit, elle se répète comme à elle-même la phrase de son rêve. « Ne l'ouvrez jamais. » Un rien de paternel dans le regard, il répète après elle. « Ne l'ouvrez jamais. » L'objet tourne entre ses mains qui le déchiffrent.
Ma terre est rouge. Mes pieds l'ont foulée depuis toujours. Depuis que ma mémoire est née, je me souviens l'avoir foulée, et mes pieds eux-mêmes sont devenus rouges. La couleur de ma terre est dans mes pieds comme une empreinte indélébile. Mon ciel est bleu, c'est une toile immobile tendue entre quatre infinis. Mes yeux s'y perdent, s'y noient, s'y ancrent. La couleur de mon ciel, j'en ai vêtu mon cœur. J'y puise courage et j'y rêve. Mon soleil est jaune. Ma peau noire absorbe ce métal en fusion, le renvoie comme un autre soleil. La couleur du soleil est dans ma rétine, comme capturée. Elle m'habite et éclaire ma solitude. J'ai 8 ans. L'école, je ne la connais pas. Trop lointaine, trop chère, trop inaccessible, trop inutile. L'école ici, personne ne la connaît. Alors, pour moi et les autres, gamins des rues, notre école, c'est ce terrain vague sur lequel de nos mains et nos pieds, nous écrivons dans l'air et sur le sol de drôles de mots, des phrases entières parfois, au hasard de nos passes, quand l'objet effectue entre nous un nombre suffisant de haltes brèves. Canettes, bâtons, bouteilles en plastique, boîtes de conserve passent et repassent, de main en main, de pied en pied, tissant entre nous tous un lien comme une aiguille le ferait entre une multitude de petits bouts de tissu disparates. Je viens de saisir au vol un drôle de cylindre que je n'ai pas vu arriver sur moi. Où avais-je la tête? Est-il tombé du ciel? Je le sens dans ma main, inconnu, léger, mystérieux. Il m'attire insolite. Je le tiens bien serré au creux de ma paume. Ma main devient brûlante, comme le soleil. Pourtant, l'objet, lui, n'a rien de chaud. Et puis, ce tam-tam dans ma paume, imperceptible, et qui grossit au rythme de mon cœur. Ce petit goût de rien est magique, magique ou ensorcelé. J'ai peur et puis envie aussi de le découvrir. J'ai peur et puis envie, j'ai envie mais j'ai peur et puis envie. M'isoler, sortir du groupe et de la ronde des objets qui ne cessent de tourner. Sortir et m'isoler. Derrière le mur, le souffle coupé, la terre rouge à mes pieds, je reste yeux fermés quelques secondes. Je les rouvre enfin, alors que ma main fait de même comme une fleur aux pétales lentement épanouie. L'objet est banal, petit tube sans queue ni tête, sans dessus ni dessous, sans haut ni bas. Les coins de ma bouche s'abaissent en un rictus de déception et deux grosses bulles de larmes se forment sous mes paupières avant de se rompre, envahissant mes deux pupilles, les noyant. Je pleure. Comment ai-je pu m'imaginer autre chose que cette chose inutile et moche? Oui, c'est ça, vraiment moche. Je secoue l'objet comme pour le punir d'être aussi décevant. Je le secoue et un premier miracle se produit. Une cascade de cliquetis secs se fait entendre. Je le tourne, le retourne, lentement. Puis très vite, lentement et très vite, les cliquetis suivent mon geste et mon rythme. Lentement, puis très vite. Ça chante et ça danse là-dedans. Ça chante et ça danse et ça me rend heureux. Du coup, les coins de ma bouche remontent vers mes oreilles et tout rentre dans l'ordre. J'aperçois soudain à l'extrémité du cylindre un petit trou que je n'avais pas remarqué et sur ce trou, je colle mon œil comme j'ai vu le faire un capitaine de navire sur l'étiquette d'une bouteille de rhum ramassée. Fleur de verre aux pétales symétriques, éclat de lumière colorée. J'ébauche un mouvement de la main. Le cylindre tourne dans un bruit de chute des petites particules qui l'habitent. Une architecture nouvelle de couleurs se pavane devant moi. Je ne cesse maintenant de secouer et tourner l'objet, me grisant de ses mutations sonores, plus encore de ses géométries changeantes comme des sculptures de couleurs et de lumière. Je ne me lasse pas de transformer les paysages enfermés dans ce tout petit bout de carton gris et terne. Je me grise à ces images, magiques, escortées par le chuchotement des morceaux invisibles et qui s'entrechoquent. Magique. Je m'entends dire magique et ce mot me fait trembler. Tant de couleurs, tant de lumières, tant de fleurs irréelles dans un si petit objet. Il doit y avoir un génie caché à l'intérieur. Et ce génie, il y a toute chance qu'il soit du côté des mauvais. Et alors ces mauvais esprits, ils vont me posséder. Je m'entends pousser un cri alors que je sens une main ferme empoigner mon épaule. Vauriens, les vauriens sont des vauriens et restent des vauriens. Je n'ai pas besoin de me retourner pour comprendre que cette main, accompagnée de cette voix et de cette sentence, escorte toujours toutes trois ma tante aimée, qui pourtant elle ne m'aime pas, mais alors pas du tout. Où étais-tu encore passé, vaurien? Encore à traîner dans la rue, misérable? Crois-tu que je puisse nourrir une bouche à rien faire? Et puis d'abord, qu'est-ce que tu as encore déniché et que tu tiens si fort dans ta main droite, espèce de garnement? Montre-moi ça immédiatement, sinon tu vas voir un peu. Oubliez le cylindre et sa magie de pacotille. La main de tante aimée en est la responsable. Je m'exécute et lui tends l'objet, à regret, mais sans trop. Ma tante ne daigne y jeter qu'un regard rapide. Soudain, les veines de son cou enflent et se boursouflent, son bras se lève comme celui d'un lutteur, et dans un hurlement de possédé, elle envoie contre le mur le tube qui explose et se disperse dans un bruit sourd et sans panache. Elle repart sans un mot, puis j'entends sa voix rugir en abattant sur moi autant d'ordres que j'aurais mérité de coups de fouet selon elle. Je ramasse à la hâte les morceaux de verre éparpillés sur le sol, les empoche un à un en évitant de me couper. Aïe, ça pique et ça saute. J'obéis aux ordres de la tante, le cœur curieusement joyeux.
Acte 1, scène 1, quelque chose entre en scène. Un objet?
C'est une plume.
C'est une voix.
C'est une plume.
C'est une plume.
Encore une voix.
C'est une plante.
Encore une voix.
C'est un soutien-gorge.
Encore une voix.
C'est une ruelle. C'est la ruelle de Brindelot.
Encore une voix.
C'est un ventilateur sur le trottoir.
Encore une voix.
C'est une maison. Une maison sans intérêt.
Encore une voix.
C'est une analyse. Maïs bleu.
Encore une voix.
C'est une voix.
Encore une voix.
C'est un cylindre.
On ne sait pas ce que c'est, mais on sait qu'il parle. Acte 1, scène 2. Entre l'enfant du vent.
L'été, une chaleur accablante, insoutenable, permit à certains êtres animés de s'évanouir malgré eux. Quelques rescapés, fourmis, coccinelles et moustiques, daignèrent affronter cette difficulté de respirer lorsque l'air dépourvu d'oxygène accable leurs poumons ensevelis. Survivant à cette tempête de chaleur, un petit être humain, prénommé Hanoï, réussit à surmonter l'insurmontable, lorsqu'un jour, il découvrit sur le bas-côté de son chemin d'écolier un ventilateur. Ce ventilateur, tout de ferraille vêtu, laisse apparaître derrière ce grillage rouillé une palle bleue, en plastique, poussiéreuse surtout. Ce ventilateur ne fonctionne pas, ne fonctionne plus. C'est un ventilateur électrique, il est débranché, il n'y a pas de prise, le fil traîne et s'enlace. Ce fil ressemble à un serpent. L'hélice est une aile de papillon trop emprisonnée dans cette cage reliée à un fil. Hanoï, dans sa vie de tous les jours, dans sa vie de toutes les nuits, était un petit garçon qui éprouvait quelques graves et profondes difficultés respiratoires. Sa cage thoracique n'emprisonnait qu'un poumon, un seul, unique, un seul poumon dans sa cage. Un seul poumon en charge de son souffle fébrile, fragile et faillible aussi et surtout. Alors imaginez seulement ce que peut vivre un être en difficulté, en souffrance physique, lorsqu'il perçoit cet objet qui, dans son imaginaire, anime le souffle. Il était là, donc, tout près, juste à côté. Hanoï le fleurait à peine, le touchait par intermittence, car ce goût de fer froid dans la paume de sa main lui procurait une sensation nouvelle, étrangère, mais pas désagréable. C'était une sensation étonnante. Être au contact de cette matière n'avait rien d'habituel. Cette matière brillait, c'était la cage du ventilateur, le fer, c'était des éclats de lumière dans ses yeux, c'était des larmes aussi. Vint alors ce moment magique où une brise d'air parvint à faire tournoyer les pattes du ventilateur, ses ailes. Son souffle se fit alors plus régulier, son inspiration se fit plus profonde, cette gorgée d'air insufflée rêvait d'être sous peu expulsée. C'est ce qui arriva, comme ça.
d'un coup d'un seul, sans presque rien dire, sans prévenir. Cette expiration fut une des plus belles jamais vécues au monde. C'était un cri silencieux. C'était une phrase partie dans les airs. Des mots, une pensée profonde. Un jour, je travaillerai avec le vent pour oxygéner les vents.
Entre, enfant de la plume!
C'est une plume recourbée, effilochée, simplement blanche, mais un peu salie. Elle est surgie du ciel ou d'une flaque, humide, mouillée. Elle semble collée au bois de la table, posée, abandonnée, transmise comme un signe. Elle n'a rien à faire là, sa présence est saugrenue. La table est installée dehors sur la terrasse, à distance de tout arbre. Il fait sec, même si la pluie de la veille a laissé quelques traces dans le jardin. L'enfant s'est approché de la table, son regard la survole à peine. La courbure blanche a attiré son regard. Il tend la main, son bras est trop court. Il peste, balbutie. Quelques bulles de salive éclaboussent sa jolie bouche. Son regard s'attriste devant son échec. Les yeux se forment comme pour pleurer. Il sursaute, éructe, souffle. La plume s'est animée. Elle frémit malgré le poids des gouttelettes d'eau et des particules de terre. L'enfant rit, ses boucles blondes tressautent autour de son visage. C'est une petite fille à peine entrée dans l'enfance, vêtue encore d'une robe brodée de bébé. Elle a compris comment faire vivre l'intruse, jouer avec, se l'approprier. Elle est remplie de joie de sa découverte. Elle souffle un petit coup sur la plume, insiste, rallonge son souffle. La plume tourne sur elle-même, se déplace, vire, tombe. La petite fille rit, court, et se jette sur elle les bras tendus. Une grande main a précédé l'enfant et cueille délicatement la plume qui semble minuscule. Deux doigts prennent la hampe, juste sous les quelques filaments de duvet qui s'agitent encore en souvenir de la chute. La petite fille lève les yeux au-delà, au-dessus de la main, du bras, et découvre le sourire de son père. « Tiens, ma chérie, prends-la, la plume. Elle s'est envolée. » Et il tend la partie qu'il tenait entre ses doigts vers l'enfant qui approche, ému et soucieuse de bien faire sa petite main. « Moi aussi, je veux voler. »
« Entre, enfant des plantes !»
Je m'excuse, je ne vais pas lire le texte que vous avez sur votre manuel. Épisode au parc de la Guirlande. Montpellier, hiver 2008-2009. Je promène ma petite chienne Tekel à poil dur, Pixie, au parc de la Guirlande. Pas à pas, le nez au ras du sol, elle renifle, changée par le gel de ce 9 janvier, une passionnante odeur, licite ou suspecte. Le bassin du parc est gelé, 4 mm de glace. Nous montons 4 marches, voici l'autre moitié du parc, avec ses sphinx de pierre. Sur un banc, de pierre lui aussi, s'allonge une forme humaine, un individu au visage entre cramoisi et violacé, les yeux mi-clos, sa casquette abandonnée au bout du banc. Ne doit-on pas s'inquiéter pour sa santé? Hypothermie, infarctus, accident cérébral, coma éthylique? Je tente une timide approche. « Bonjour, monsieur, ça va bien ?» Réponse. Mais Pixie, pressée d'aller plus loin, et trouvant sans doute l'individu peu sympathique, tire sur sa laisse en remuant la queue, je lui cède. Nous retrouvons la première partie du parc, laurier géant, au tronc porteur de lichens violets, cyprès et pin parasol, labyrinthe de buis et lauriers entaillés au carré. La chienne libérée de sa laisse alterne petit trot et reniflage pas à pas. Je suis cependant saisi de remords. Cet homme n'est-il pas en danger? Ne faudrait-il pas alerter du secours? Nous retournons vers les sphinx. Soulagement, l'individu est assis, les yeux ouverts, la casquette vissée sur la tête. Mais toujours le visage congestionné. Ah, monsieur, je suis content de vous voir assis. Je me suis fait du souci tout à l'heure, en vous voyant coucher immobile sur ce froid, par ce froid. Est-ce que ça vous regarde, si j'ai envie de me coucher sur ce banc? Votre raisonnement est celui d'une personne âgée. Lui, grisonnant, semble avoir 50 ans. Né en 1930, je revois en accéléré défiler mon existence. Adolescence pendant la guerre, vie active, mariage, retraite, veuvage. Pixie est tout ce qui me reste de mes vies antérieures. Je clôt mon bec, nous repartons lentement. Mon chien, né en 2000, devient elle aussi un chien âgé.
Merci. Juste le commentaire.
Je ne sais pas à quelle page c'est. Mais...
Juste le premier paragraphe.
Je me trouvais à 13 ans avec des garçons de 15 ans et plus, ayant encore ma voix de soprano. Dans les lectures à haute voix d'auteurs classiques, j'incarnais donc Chimène, Bérénice, Phèdre ou Andromaque, ce qui suscitait l'ironie de mes camarades qui émettaient des doutes sur ma virilité présente ou future. Obsédé par les réalités de l'amour physique, leurs propos me révulsaient par leur vulgarité. Il en était de même chez le coiffeur, pour homme, où florissaient les histoires de Ronzès. J'y allais le moins souvent possible.
Entre enfant au soutien-gorge rose.
In mano un reggiseno. Il reggiseno rosa cipria a fiorellini di pizzo di mia madre. Una di quelle cose che non si possono vedere, che non si possono toccare, che non si possono neanche immaginare, che esistono ma devono essere nascoste e rimanere tali. Una di quelle cose vietate, estremamente vietate. Al solo pensiero cadi in peccato, devi correre in confessionale, raccontare tutto, proprio tutto, a quell'uomo vestito di nero che ti ascolta i tuoi aliti da dietro una graticola, a quell'uomo che ti dà Padre Nostri e Ave Maria da recitare per almeno una mezz'ora, a quell'uomo che presto svelerà i tuoi segreti a tua madre. Ma ormai era fatta. Indossavo orgogliosa l'oggetto del peccato, mi specchiavo e mi dicevo: lo farò vedere al mondo intero, lo indosserò sopra e non sotto, sopra le maglie, sopra i vestiti, sopra tutto quello che in teoria dovrebbe stare sopra. Gli darò giustizia. Diventerà il reggiseno con la R maiuscola e le donne saranno belle, belle da morire. Immagini che si accavallavano, che fluttuavano, che si rincorrevano. Immagini che non potevano andare oltre la mia testa, che dovevano rimanere lì, ingarbugliate, tra neuroni e materia grigia.
Entre enfant à la truelle légendaire.
Caché derrière les pulls et les t-shirts, dans la vieille commode de bois, la truelle attendait que la journée se passe. Et ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'elle pouvait enfin sortir de son tiroir pour s'exprimer ainsi. Tu en as mis du temps aujourd'hui. Je suis rentré tard des cours, répondit Manuel, et j'ai dû goûter et faire mes devoirs. Mais maintenant, je suis là, et nous pouvons reprendre notre discussion là où elle en était. Oui, enchaîna la truelle, tu voulais savoir comment j'avais construit la fontaine du Polygone, qui se trouve juste devant la FNAC. Eh bien, petit garçon, crois-moi que ça n'a pas été une partie de plaisir. Il a fallu que j'étale pas moins de 500 kilos de ciment sur le parvis de la FNAC et de Musique 34. Ce qui fait la valeur d'un bon maçon, c'est l'endurance et la résistance. Sans cela, tu te briseras le dos ou te déchireras les ligaments bien avant d'arriver à la retraite. Tu pourrais bien être myope ou stupide, ça importe peu. En revanche, il te faut être robuste. C'est ça la clé pour être un bon maçon et pour durer longtemps. Car avec le temps, tu édifieras des bâtiments de plus en plus complexes jusqu'à atteindre la perfection, comme l'a fait ton prédécesseur Manolo Gomez. Du moins, avant qu'il ne se casse les reins. Parce que Manolo s'est cassé les reins, demande Manuel, surpris. Eh oui, mon petit bonhomme, il a voulu trop en faire. Il a trop donné et son dos a craqué. Maintenant, il ne peut plus porter de poids et il est obligé de travailler dans un bureau toute la journée en faisant des pauses régulièrement. Et comme il a la nostalgie de son passé glorieux, il est entré en dépression nerveuse et a tenté de se suicider le 4 avril dernier. C'est après qu'il a été remis sur pied, qu'il a vendu tous ses outils et que me voilà entre tes mains. C'est terrible, s'enquit le petit garçon. C'est comme ça que finissent tous les maçons? Pour la plupart, oui, quand ils ont la chance de trouver un nouveau travail. Les autres, cependant, ils restent au chômage et lorsqu'ils ne touchent plus leurs indemnités, ils se retrouvent avec un statut d'invalide et perçoivent une allocation pour les aider à patienter en attendant la mort. C'est terrible, répète Manuel comme pour s'en persuader. En vérité, je te le dis, petit homme, mieux vaut exercer un métier ennuyeux comme secrétaire ou comptable et parvenir à la fin de ta vie névrosé mais indemne physiquement, car au moins tu pourras vivre ta vieillesse en voyageant ou même en regardant la télé sans en être incommodé par des maux incessants. Telle est la dure loi de la vie, telle est la vérité ultime que je suis en train de te révéler. Mais je ne veux pas travailler derrière un bureau quand je serai grand, moi. Je veux travailler au grand air, construire des bâtiments qui garderont mon empreinte, être grand et fort. C'est à ce moment que la maman crie au pied de l'escalier. « Manuel, qu'est-ce que tu fais à parler tout seul? As-tu fini tes devoirs? On mange. »
Entre, enfant, à la valise bleue.
C'est plus exact. Cet été-là, il pleuvait souvent et la plage était déserte quand Balthazar de Lune marchait, regardant le ciel comme d'habitude. Il ne vit pas sur le rocher gris une petite valise bleue. Balthazar parlait peu, ne voyait jamais rien, ne trouvait jamais rien sur la plage ou ailleurs, et s'en moquait. Pourtant, cette valise était bien là, sur le rocher gris. On aurait presque pu dire qu'elle attendait que Delphine l'éclair la trouve. Et c'est ce qui arriva quand, à son tour, elle se promena sur la plage, toujours déserte. Delphine avait 8 ans, Balthazar 10. Ils étaient voisins et vaguement camarades. Delphine ne regardait jamais le ciel lors de ses promenades. Elle ramassait toutes sortes de choses qu'elle adorait montrer ensuite à Balthazar. Ses trésors, disait-elle, ou des trucs géniaux. Ce soir-là, elle était particulièrement excitée et fière de sa trouvaille, bien qu'elle en ignorât encore le contenu. Il y avait quelque chose d'important dans cette petite valise bleue, elle en était sûre. Elle alla chercher Balthazar, car rien ne s'ouvrait malgré ses efforts. Et puis, de toute façon, et quoi qu'il advienne, il fallait qu'il soit là. La valise fut difficile, très difficile à ouvrir. Quelle joie pour la fillette quand les crochets sautèrent. Elle fouillait, dansait, fouillait encore, tandis que le garçon regardait, sans rien dire. Le carnet est là, je le veux. Il est à moi. Je le veux, mais... Delphine soupira et dit, « Allez va, tu le mérites après tout, je te le donne. Prends aussi les 3 crayons et les 3 gommes. » Sans mot dire, Balthazar prit le carnet et mit crayons et gommes dans sa poche. Il regardait Delphine qui s'affairait. Enfin, il inspira profondément et dit « Je vais apprendre à dessiner. Je gommerai jusqu'à ce que j'y arrive. Je dessinerai la nuit, les arbres, les tunnels et les parkings. Puis un jour, je deviendrai peintre. » Tant de mots de la part d'un garçon qui parlait si peu surprirent Delphine, qui en délaissa un instant la valise et ses trésors. Puis elle oublia.
Interlude.
La légende parle de la lignée des codexoises gigassiennes, de leur ventre vide, car les femmes ne pouvaient pas enfanter. En compensation, elles détenaient, et elles seules, une arme puissante, légué par les mères de l'univers au temps où les terriens vivaient encore. Je vous le dis, quand l'heure fut venue, Koto la Matrice 1 partit en voyage pour les marécages bouillants au nord de sa galaxie. To, son mari, gigassien à la pureté incontestable et incontestée, commença à transformer le petit village paisible, couvert de fleurs, de musique, convivial et doux, à la bonhomie désordonnée, en ville contraire. Pour arriver à ses fins, il lui fallait un saint, afin de ramener toutes les brebis galeuses dans le droit chemin de la vérité absolue. Le temps était venu d'accomplir la prophétie de la lignée et d'asseoir sa dynastie pour des centaines de milliers d'années de couleurs diffuses. Coteau planta sa tête au bord des marécages bouillants, enduit son corps puissant de graisse de terrien et de boues immondes, ouvrit le codex à la page où elle était nommée, elle, l'élu, avala d'une traite la potion de l'appel et attendit. Les yeux écarquillés, excités par la rencontre imminente, elle vit, sortant des marécages maudits, des phallus en érection et sentit des langues râpeuses comme du fer se coller sur sa peau. Elle était couverte de sexe, de cris, de hurlements, de griffures. Le sperme coulait sur son corps, mais aucun ne la pénétrait. Folle de désir, elle reprit la formule magique, la mâcha, la cracha jusqu'à ce qu'un informe aux dents d'acier sortant d'un ailleurs inavoué la pénétra enfin avec une telle force qu'elle ne sut plus, en ce suprême instant, qui était le phallus et qui ne l'était pas. Il continua son ensemencement 7 jours et 7 nuits. Au bout du 8e, il se reposa. Coteau était radieuse, hors de son corps, dévorée par la force sexuelle du grand Satan, elle s'agenouilla et le pria, éplorée de reconnaissance, de recommencer. Il le fit ainsi pendant 7 fois 8 jours, convoqua alors toutes les forces obscures de la plus petite laideur au mal absolu qui était son maître. Ils recommencèrent, tous ensemble ou par petits groupes, selon les désirs de Coteau et ceux du grand Satan. La dernière semaine, elle fut seule avec lui. Il tatoua sur son corps des formules de sorcellerie et une de ses images tout le long de sa colonne vertébrale. Puis il l'avala, la modela à l'intérieur des peurs, des envies, des jalousies, de la haine, du refus de l'autre, de l'absence d'amour, de la cruauté, du sadisme, de la banalité du mal épris du mal absolu. Là, il la rendit à la terre boueuse des marécages purs. Quand elle revint à Giga, Tho remarqua combien sa femme avait changé. Il ne posa aucune question. Néanmoins, il décida de s'en méfier et d'obéir à chacune de ses demandes. Coteau donna naissance à Kata, sa fille, qui naquit avec les mêmes marques, les mêmes tatouages annonciateurs de pouvoirs absolus, et les temps passèrent, et la ville grandit, et le mal prit le pouvoir chaque jour davantage.
Acte 2. Le temps passe.
Sur l'île de Murano, Hanoï va à son occupation privilégiée sans s'être jamais défait de son souffle si faillite. De cette place manquante, de cet espace vide à l'intérieur de sa cage, Hanoï en a puisé une richesse, une force créatrice. Il est souffleur de verre.
Le temps passe.
Dans le grand salon sont exposés des souvenirs chers à la vieille dame, assise à une table de jeu devant la baie vitrée. Elle ne joue pas aux cartes, plongée dans une patience étalée sur le tapis vert, non, elle écrit de façon déterminée. Seul son bras immobile, agité d'un mouvement régulier, répété sans cesse et parfois brièvement suspendu. Quand elle s'anime davantage, sa chevelure d'un blanc éclatant frémit sur ses épaules maigres. Sur la cheminée, dans laquelle crépite un feu paisible, et pose un modèle réduit d'avion d'avant-guerre, un avion de pionnier, un coucou d'aventurier des airs. Réalisé en bois léger et tissu blanc, il semble prêt à s'envoler, le nez en l'air, ou au bout d'une voltige audacieuse. Au-dessus de la maquette, dans un grand cadre, la photographie d'un danseur en plein vol, les jambes à l'horizontale, aux muscles tendus à l'extrême, dans un mouvement d'une puissance affirmée et triomphante. Ses bras, dans une attitude extrêmement gracieuse, étendus de chaque côté de son torse tout de blanc vêtu, lui confèrent une expression aérienne. Elle écrit sans discontinuer, même si la lumière du jour s'atténue légèrement dans cette fin d'après-midi. Dans un sous-verre sur le mur, dans le faisceau d'un lampadaire, se fait jour la page intégrale d'un journal de la presse locale intitulé « Le retour de la grand-mère volante ». Le titre est illustré au milieu d'un long texte de plusieurs photographies. La première représente une femme blonde, jeune et souriante, posant en corsage blanc, aux manches de dentelle, au pied d'un petit avion d'aventurière désert, un avion un peu sommaire, gracile et léger, aux ailes en tissu clair. La seconde image représente cet avion en plein vol, au-dessus des collines enrubannées d'une brume translucide. La troisième photo, d'un format plus grand, représente une femme âgée, en portrait serré sur un visage épanoui, malgré le port d'un casque de cuir à l'aspect suranné. Le feu s'étiole doucement, les crépitements de bois résineux s'espacent, le silence est occupé par un grincement régulier, obstiné. Sur la table à jeu, un cahier épais sur lequel s'aligne, déterminé, la main fine de la vieille dame.
Le temps passe.
Alors, je vais recommencer ça. Et...
Si tu ne veux pas. Tu ne veux pas le dire ?
Ben non, ça fait déjà, je sais pas combien de fois que vous avez entendu.
Ah non, mais c'est pour le public qui n'a jamais entendu.
Ah bon ? Oui, oui. Le public n'a jamais entendu. Mon épouse et moi étions cousins au 3e ou 4e degré. Elle avait en commun avec moi des ancêtres Michaelis, juifs grecs qui avaient fui en 1453 Constantinople prise par les Turcs pour se réfugier à Avignon, où le statut des juifs était plus favorable, le plus favorable d'Europe. Ils s'étaient seulement astreints à assister au sermon du Vendredi Saint où on évoquait les juifs perfides. Puis ils étaient devenus maranes en se convertissant au catholicisme. Parmi les Michaelis des siècles suivants, on peut relever, lui converti à 100%, un grand inquisiteur, un botaniste allemand, le missionnaire jésuite en Indochine qui inventa d'écrire la langue vietnamienne en caractère surmonté de nombreux accents, avait eu pour mère une Michaelis. De mon côté, ma grand-mère maternelle avait été une demoiselle Souchon, famille protestante dont les uns avaient émigré en Allemagne, les autres restés en France avaient renié leur foi, à l'époque des guerres de religion. Le plus brillant des Souchons français actuels s'était enrichi dans l'import-export à Marseille et avait épousé une demoiselle Michaelis. C'était aussi le cas du cousin Marc, brillant ingénieur chez Michelin à Clermont-Ferrand, passionné de généalogie et auquel on devait tout ce qui est exposé ci-dessus. Cela l'avait amené à organiser le 15 août de chaque année une réunion de famille.
Le temps passe.
Bianca bambola di porcellana. Porcellana bianca. Bambola bianca di porcellana. Bianca bambola di porcellana. Porcellana bianca. Bambola. Bambola. Porcellana. Gli occhi a guardare in su il vuoto, forse il tutto, chissà. Le labbra rose socchiuse, niente che esce, niente che entra, niente. Il rossetto rosso dona colore e i capelli con la lacca non si muovono di un soffio. Le scarpine nere di vernice lucidate per l'occasione, perfettamente allineate, non un centimetro in più, non un centimetro in meno. E il vestitino scelto e curato, lavato e stirato, ripassato e ripassato, pronto, sempre pronto, non si sa mai. Chiuso in un sacco esalante naftalina, deve solo essere indossato. Bianca, bambola di porcellana, fredda e bianca, sdraiata sul letto, che guarda in su. Mia madre è morta. Apro il cassetto del canterano per cercare, tra fazzoletti e mutande, una foto. La foto perfetta, non troppo seria, non troppo sorridente, ma serena, quella è d'obbligo. La foto serena e tranquilla, testimonianza di una vita serena e tranquilla, per affiggere in croce, per far ricordare chi non c'è più. Il portafoglio marrone di lei è lì, riposto nel cassetto. Tornava da fare la spesa e lo toglieva dalla borsa. Lo apro, curiosa di non so che. Sulla destra una pellicola di plastica protegge dalla polvere una serie di foto. Le ha sempre tenute con sé. Foto dei suoi figli, foto dei suoi nipoti, di suo marito, degli amici più cari, dei parenti lontani. Foto da far vedere. Una collezione dettagliata di facce. Sorrido e faccio scivolare tra le dita i ritagli. Visi più o meno conosciuti si rincorrono in questa galleria. Anch'io sono ben presente. Bebè, mio primo giorno di scuola, matrimonio con il mio primo marito, prima gita in moto, matrimonio con il mio secondo marito. Io mamma due, io mamma tre, mia prima luna. Mia prima luna? Un lampo. In quell'ovale ritagliato accuratamente troneggio sorridente, accaldata e sudata. La maglietta bianca attaccata alla pelle, trasparente. Il reggiseno, rosa cipria, fiorellini di pizzo, è lì, troneggia con me. Mia madre per anni mi ha mostrata così al mondo, in quella tenuta scabrosa, osè, come avrebbe detto lei. Mi riguardo nella foto, butto un occhio allo specchio e mi dico, perché no?
Le temps passe.
Son père eut la formidable idée de l'amener devant un psychiatre. Le professionnel du psychisme commença ainsi l'entretien. « Alors, mon petit, sais-tu pourquoi tu as redoublé ton CM1 ?»« Oui, monsieur, c'est parce que je ne peux pas devenir maçon. »« Et pourquoi ne pourrais-tu pas devenir maçon ?»« C'est parce que je ne suis pas assez fort. » »« Et qui t'a dit que tu n'étais pas assez fort ?» C'est la truelle, monsieur. La truelle t'a dit que tu n'étais pas assez fort pour devenir maçon ? Oui, monsieur. Le psychiatre pensa alors. Voici un cas de schizophrénie aiguë. Ce garçon entend des voix et il les attribue à un objet. Et pourquoi tu tiens absolument à devenir maçon ? Parce que je veux faire comme mon idole Manolo Gomez. Et construire de grands bâtiments. Tu sais que maçon n'est pas un métier facile, que ce sont ceux qui ne travaillent pas bien à l'école qui deviennent maçons. C'est pour ça que tu ne travailles pas bien à l'école ? Oh non, monsieur, car je ne veux plus devenir maçon. Et que veux-tu faire alors dans la vie ? Je ne sais pas, monsieur. À ton âge, les petits garçons ont des rêves. Ils veulent devenir médecins, footballeurs, ou même super-héros. Et toi, tu ne rêves pas de devenir quelque chose ? Non, monsieur, plus maintenant. Le psychiatre diagnostiqua le cas de Manuel et lui accorda un traitement en conséquence. Du risperdal, du déroxate. Le petit garçon devint morne et désabusé. Ses résultats à l'école ne s'améliorèrent pas. Il dut prendre une branche de comptable dans un BEP, au lycée professionnel du Mas de Tess, mais les études l'ennuyèrent profondément, et ses parents en furent désespérés. Ils n'eurent d'autre choix que de le mettre en apprentissage, à l'âge de 16 ans, en ébénisterie. Manuel acheva sa formation avec difficulté, mais le professeur principal convoqua M. et Mme Lopez et leur dit: votre fils n'a pas les talents requis pour devenir ébéniste. Il est trop absent, trop dans la lune pour cela. L'équipe pédagogique a l'impression que rien ne l'intéresse. Il fait montre d'une paresse infinie, jamais un devoir rendu à temps. Et pour sûr, il est trop maladroit. À 18 ans, Manuel se pendit dans la cave. Il fut sauvé in extremis par sa mère, qui était sorti plus tôt du travail ce jour-là.
Le temps passe.
Balthazar, pourquoi tout ça ? Je ne sais pas. Mais alors tu es qui exactement ? Sans doute celui que j'ai toujours voulu être, un aligneur de mots ou un faiseur de pages. Mais le dessin, la peinture, c'était juste pour t'impressionner, chère princesse au petit pois. Je ne comprends pas. C'est simple. Dans la petite valise bleue, le seul truc intéressant à mes yeux était ce cahier. J'ai toujours adoré les cahiers et celui-là ressemblait à un livre.
Ah bon ?
Oui, le cahier, les crayons, les gommes surtout m'ont tout de suite emballé. Mais pourquoi le dessin, la nuit, les tunnels et le reste ? Tu vois, je n'ai pas oublié. Je n'ai pas osé te dire que j'avais envie d'écrire sur ce cahier. À l'époque, pour toi, les cahiers c'était pour l'école et tu n'adorais pas l'école, même si ça a changé depuis. Alors j'ai brodé sur l'instant, j'étais déjà dans la fiction. La fiction ? Oui, le tralala d'un enfant timide et imaginatif. Une parole noble et prophétique. Je m'inventais un destin pour que tu me regardes. Et ce destin, je l'ai accompli. Du moins officiellement. Mais je te regardais, tu étais mon ami. Non, ça c'était encore de la fiction. J'étais juste ton camarade, ton voisin bienveillant. Le témoin de tes fabuleuses découvertes. Ton miroir en quelque sorte. Alors tu as écrit clandestinement. Oui, chère Delphine, j'ai écrit et j'ai lu pour trouver des trésors et des trucs géniaux, comme toi. Et tu en as trouvé ? Oui, beaucoup. Delphine fondit en larmes. Balthazar se leva, se retourna et posa sur la table une petite valise bleue. Et il dit : ne pleure pas, princesse, ne pleure pas tes rêves et ton théâtre de carton. Peintre ou écrivain, je suis vivant et je t'aime.
L'enfant est revenu. J'entends maintenant le frottement d'un pinceau sur la surface plane d'une feuille de papier, puis de l'eau remuée. Va et vient du pinceau à la feuille, du pinceau à l'eau, du pinceau à la peinture. Ça danse et ça chante entre les mains de l'enfant et sur la feuille. Et je continue. La couleur du soleil est dans ma rétine comme capturée. Elle m'habite et éclaire ma solitude. Je sens la main de la petite qui prend la mienne et trempe mon index dans la couleur. Ça vibre en moi et sur la feuille. Les fleurs de verre et leur géométrie m'accompagnent. La petite est là, j'aime sa présence. Elle est si proche de moi comme une sœur. Dans l'ombre tiède du soir, nous parlons à mots timides et nus. Elle m'implore. Grand-père, raconte, raconte encore ton histoire. Plus tard n'est plus possible. Plus tard est maintenant. Et je commence. Ma terre est rouge, mes pieds l'ont foulée depuis toujours. La petite s'est levée, elle s'affaire à je ne sais quoi, et j'écoute la légèreté de son pas. Mon ciel est bleu, c'est une toile immobile tendue entre quatre infinis. L'enfant est revenu. J'entends maintenant le frottement d'un pinceau sur la surface plane d'une feuille de papier, puis de l'eau remuée. Va et vient du pinceau à la feuille, du pinceau à l'eau, du pinceau à la peinture. Ça danse et ça chante entre les mains de l'enfant et sur la feuille. Et je continue. La couleur du soleil est dans ma rétine comme capturée. Elle m'habite et éclaire ma solitude. Je sens la main de la petite qui prend la mienne et trempe mon index dans la couleur. Ça vibre en moi et sur la feuille. Les fleurs de verre et leur géométrie m'accompagnent.
Une voix. Damien a 8 ans, il vit seul avec sa mère, c'est son anniversaire. Beaucoup d'invités, beaucoup de cadeaux, dont une bouteille avec une petite maison à l'intérieur. C'est l'inconnu au chapeau qui lui est offert. C'est un enfant rêveur, un jour je trouverai cette maison pour de vrai. Encore une voix. Il arrive parfois qu'à force de serrer ses petits poings afin de forcer son destin, une approximation de la prophétie se réalise. Encore une voix. Donc j'avais la maison, mais aussi la bouteille. Encore une voix. Assis mélancolique dans les hautes herbes, j'apercevais souvent dans ce paysage violent une cavalière telle une sœur comptée galopant dans les herbes hautes. Encore une voix. Un jour que je somnolais, une jambe hors du fauteuil, portes et fenêtres ouvertes rythmées par le vent, elle franchit le pas, se dirigea vers la maudite bouteille. Et d'un geste sûr, elle y fit rentrer un bouquet de fleurs qu'elle venait de couper. La petite maison fut détruite sous la pression des dures tiges pleines de terre. Encore une voix. Jeanne devint la compagne des jours heureux. Encore une voix. Il y eut des orages, l'ombre de maquignon ricanant, la mort de ma bien-aimée qui repose depuis trop longtemps derrière la maison et que je ne verrai jamais plus. Encore une voix. Fatigué mais sans état d'âme pour gagner ma vie, je fabrique des petits objets que je dépose au fond des bouteilles. Encore une voix. Je pars sur les marchés, on ne me donne pas d'âge avec mon long manteau et mon chapeau. Encore une voix. Enfin, sa mère riait souvent avec lui, des poches trombes, bouteilles à la main, que l'on voyait dans les petits dessins humoristiques. Encore une voix. Bien plus tard, c'est moi qui serai ivre dans quelques pays, bars de mer sordide, tel le clochard céleste ou pathétique, moi aussi la bouteille à la main. Encore une voix. Le jour de ses 8 ans, Damien reçut un peu à l'écart des invités un ultime cadeau, une bouteille avec une maison à l'intérieur. Encore une voix. Le temps de lever la tête pour remercier, l'inconnu au chapeau, celui-ci avait disparu. Il pensa à en parler à sa mère, puis se ravisa, ne voulant pas l'inquiéter. Encore une voix. Le jour de ses 8 ans, il se coucha tard, énervé par la journée, et posa la bouteille près de la lampe de chevet. La petite maison était bizarre et attirante. Il sourit satisfait, se disant avant de trouver le sommeil que lorsqu'il serait grand, il habiterait cette maison. Encore une voix. Je me promène sur les falaises lorsque devant moi ma maison est là, la maison peinte par Hooper qui servit de décor à Hitchcock. Forcel est écrit sur une planche qui couine, ne tenant que pour un clou. Je m'installe. Encore une voix. Une femme inconnue, coiffée d'un chapeau trop grand, m'amène des fleurs que je mets dans la bouteille de mon enfance. On sort, la maison se dissout. Nous partons au village vivre avec des gens. Encore une voix. Jeanne et moi, après nous être apprivoisés, vécûmes ensemble, osmose totale. Femme énergique, elle jeta toutes les bouteilles de poison et égaya la maison avec les fleurs qui l'entouraient. Encore une voix. Je songeais en souriant que je vivais mon salut tel que l'avait prédit Jacques London dans le cabaret de la dernière chance, livre dont se serviraient les femmes pour la prohibition de l'alcool. Hélas, Jeanne mourut. Encore une voix. Le soir, titubant comme tous les soirs, je prends mon chapeau et une bouteille avec un objet à l'intérieur pour l'offrir au premier enfant rencontré. Encore une voix. Le jour de ses 8 ans, peut-être un voisin lui avait versé un verre d'alcool, premier contact. Il était sorti dans le jardin tout drôle. Le temps d'apercevoir s'enfuyant tel Fantomas, Zorro, Aristide Bruant, ou tout simplement son père, bref, un homme avec un chapeau. C'était étrange et déjà son ventre brûlé.
Page 7. Page 7. Un objet entre en scène. C'est une voix.
C'est une plume.
Encore une voix.
C'est une plante.
Encore une voix.
C'est un soutien-gorge.
Un soutien-gorge rose.
Encore une voix.
C'est une truelle. C'est la truelle de Manolo.
Encore une voix.
C'est un ventilateur sur un trottoir.
Encore une voix.
C'est une maison. Une maison dans une bouteille.
Encore une voix.
C'est une valise. Une valise bleue.
Encore une voix.
C'est une voix.
Encore une voix.
C'est une belle.
Merci.
Merci.